Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un épisode historique, une tragédie humaine d'une violence inouïe qui a marqué l'histoire maritime du XVIIe siècle. Un voyage au bout du monde et au bout de l'enfer, à bord d'un navire d'une puissante compagnie maritime hollandaise à la cale remplie d'or. Une histoire de tempête et de naufrage, de mort et de survie, de complots et de mutinerie, d'empoisonnement et de torture, de maladies et de sévices, qui met en scène des personnages sans foi ni loi. Un mélange sanglant et détonnant que les deux auteurs de la série de bande dessinée Le Troisième Testament, Xavier Dorizon et Timothée Montaigne, nous racontent dans un diptyque grandiose, épique et haletant. Le premier tome, 1629, où l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta vient de sortir aux éditions Glénat, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'est donc d'une histoire vraie que vous êtes parti, Xavier Dorizon, l'histoire d'un naufrage de ce bateau hollandais au XVIIe siècle qui s'appelait le Batavia. Mais vous avez pris le parti de l'appeler non pas Batavia, mais Jakarta. Ça fait moins raconteur de salade ?
Alors, il y avait effectivement un vrai problème. Parce que vous vendez une grande aventure historique et vous dites que le navire s'appelle Batavia en France, ça sonne mal. Or, oui. Il se trouve que Batavia est le nom hollandais de Jakarta. Et comme on a été obligé de traduire ou de franciser un certain nombre de mots, on s'est dit pourquoi ne pas franciser aussi le nom du navire, le préciser bien entendu dans le prologue, et utiliser ce mot de Jakarta que je trouve beaucoup plus évocateur.
Alors, des naufrages au XVIIe siècle, il y en a eu quand même quelques-uns. Pourquoi celui-ci a-t-il particulièrement attiré votre attention ?
En fait, à travers le Jakarta, ce qui est incroyable et assez unique, c'est qu'il n'y a pas une histoire, mais deux. D'où d'ailleurs l'idée qu'il y aura deux tomes. Il y a d'abord l'histoire d'une mutinerie, ou d'une tentative en fait, de mutinerie extraordinaire à bord du navire, et un voyage découverte autour de la réalité de cette marine hollandaise du XVIIe siècle, et qui en soi est totalement fascinant, et j'imagine qu'on y reviendra.
Bien sûr.
Et une deuxième histoire. D'où un diptyque, qui est que, je ne divulgâche rien, comme on dit maintenant, mais en fait, il y aura des naufragés. Ils seront d'ailleurs très nombreux. Et c'est ce qui va se passer sur cette île, qui est une sorte de mise en abîme de ce qui se passait sur le navire, mais à l'inverse, où les bourreaux vont devenir les victimes et inversement, qui a littéralement saisi d'effroi toute son époque. Et qui m'a aussi fasciné.
Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, chez Futuropolis, deux autres auteurs de BD, Christophe Dabitch et Jean-Denis Pendanx, avaient aussi raconté cette histoire. Est-ce que ça a été un problème pour vous ? Est-ce que vous vous êtes dit, ah ben non, on ne va pas replonger ?
Écoutez, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 70 livres ou histoires autour du procès de Jeanne d'Arc. Je crois qu'il sort toutes les semaines un livre sur Napoléon. Sincèrement, je n'ai pas lu le livre de ces auteurs. Je savais qu'il existait, mais je ne l'ai volontairement pas lu. Et je me suis dit, en fait, vous savez, de la même manière que quand un peintre va regarder, que deux peintres regardent une pomme, ils ne voient pas la même pomme, ils ne représentent pas la même pomme, eh bien, chez un scénariste, c'est un peu la même chose. Vous prenez une histoire et les points de vue, le regard, ce qui vous intéresse va être différent. Et donc, ça m'a pas beaucoup préoccupé.
Alors, vous vous êtes documenté à partir de quelles sources, pour le coup, Xavier Dorizon ?
Il y en a énormément. Il faut savoir que, d'abord, cette histoire existe dans des livres d'histoire. Il y a eu un procès qui a été retranscrit. Les notes d'un des principaux protagonistes, qui était le subrégargue, c'est-à-dire le représentant de la compagnie à bord du Jakarta, ont été elles aussi traduites. Et puis, avec Timothée Montaigne, on a eu une chance extraordinaire, qui a été d'aller avec notre éditeur, donc l'édition Glénat et Philippe Horry, qui les représentait. On a eu la chance d'aller à Amsterdam. Et il se trouve qu'à Lidenstadt, à quelques kilomètres d'Amsterdam, il y a une reconstitution à l'identique, avec les méthodes de l'époque, du Batavia, qu'on peut visiter, et nous avons eu droit à une visite privée.
Voilà, donc un bateau musée, Timothée Montaigne, c'était important pour vous d'aller sur place. Est-ce que vous avez dessiné sur place ? Vous aviez un carnet de croquis à la main, vous avez pris des photos. Avec quel œil est-ce que vous avez regardé le bateau ?
Alors, c'est une vraie chance. Bon, déjà, moi, là-bas, je ne connais pas tellement l'univers maritime et tout, donc c'était l'occasion j'avais lu ce bouquin de Mike Dash, là, dans lequel on retrouve les faits et tout ça, et j'avais besoin on a besoin de comprendre et puis de comprendre l'échelle des lieux, vous voyez. Il faut pouvoir se projeter sur la promiscuité, toutes ces choses-là, quoi. Et c'est vrai que pouvoir visiter le bateau, voir l'échelle, on est assez surpris par la taille, hein. C'est pas quelque chose de très grand, finalement, et tout. Et on dit, putain, il y avait quand même 300 mecs là-dessus.
Oui.
C'est assez particulier et tout. Donc voilà, après, j'ai pris plein de photos. Bah, c'est une doc extra, quoi. Donc, tu peux vraiment voir les différents ponts, pouvoir structurer un petit peu les lieux. On a besoin de ça en BD. On a besoin de visualiser où se passe chaque action et tout ça. Donc c'est ouais, ça a été un vrai luxe d'avoir ce support là ouais,
donc,
clairement.
Donc le Batavia, appelé dans l'album le Jakarta, c'est un trois mâts de 45 mètres de long. On découvre d'ailleurs au début du récit, il y a un plan de coupe, hein, qui permet au passage de réviser un petit peu de vocabulaire maritime. Donc il y a la cale, il y a le gaillard d'arrière et d'avant, il y a la dunette, il y a aussi le nom des mâts, donc mât de pavillon à l'arrière, mât d'artimon, grand mât au milieu, mât de misaine à l'avant, et puis à la proue en biais, il y a le beaupré. Alors le beaupré, là, il fend le vent. Alors tout est vraiment très 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 bien expliqué. Et ce bateau, Timothée Montaigne, eh bien, il surgit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Quelques pages plus loin, il y a un vrai effet waouh, comme on dit. C'est-à-dire qu'on tourne la page et là, on se dit waouh, c'est pas possible. Et en fait, on découvre le bateau parce que le lecteur, lui, il suit deux personnages importants. On va parler des personnages tout à l'heure, qui sont de dos et qui se préparent à embarquer à l'intérieur du navire. Alors, comment est-ce que vous avez imaginé cette double page qui vraiment, mais qui en jette graphiquement parlant, il y a toute une émotion là, comme ça, qui s'infiltre comme ça. Dans la tête du lecteur.
Eh ben écoutez, c'est très gentil, mais c'est vrai que ce plan est vraiment particulier. C'est-à-dire qu'au préalable, j'ai fait une maquette déjà pour pouvoir un petit peu comprendre les volumes, voir un petit peu la proue et tout, parce que c'est vrai que quand tu vois le bateau en vrai, bon, bah, il est rangé, on ne peut pas tellement aller en contre-plongée.
Bah oui.
Et en fait, si vous voulez, c'est toujours en bande dessinée, c'est un petit peu comme en cinéma. C'est-à-dire que le travail du dessinateur, c'est un peu un travail de réalisation. Donc nous, on récupère un script, le scénariste veut faire passer des émotions, des sensations chez le spectateur, et nous, on doit essayer de provoquer ça par le cadre, enfin avec nos armes, donc ça va être le cadre.
Et donc en le fait, cadre est le point de vue, quoi.
Exactement, voilà, c'est le point de vue où on place la caméra, va provoquer une sensation chez le spectateur.
Alors qu'est-ce qu'il vous avait dit, là, Xavier Derizon, dans cette scène-là, quelle émotion, justement, il voulait que vous dessiniez précisément? Cet effet waouh, là, que je décrivais, bah, il l'était dans le scénario?
Bien sûr, il me décrit la scène, il m'explique que voilà, les personnages arrivent vers le Batavia et tout. Je comprends son intention. En plus, on a quand même, je pense, un bain culturel assez commun et tout. Enfin, c'est vrai, on comprend assez vite ce que l'un ou l'autre a dans la tête. Et je me suis dit, mince, comment je peux traduire ça au mieux et tout. Et faut savoir qu'en bande dessinée, c'est, je pense, une double page. Généralement, on fait une double page pour... on prend vraiment de la place pour montrer le plan. Par exemple, je sais pas, un plan vraiment un panoramique, un truc très large sur une ville et tout. Et rarement un plan moyen comme ça. Ça, c'est plutôt... Généralement, on va utiliser ce genre de plan pour rentrer dans l'action. Vous voyez, c'est des cases qui vont être volontairement petites où on va être dans l'action et tout. Et j'ai décidé vraiment de... On avait un petit peu une pagination ouverte sur cet album et c'est vrai que j'ai décidé d'en faire une double page. Il fallait que ça envoie un petit peu.
Donc il y a les deux personnages qui sont de dos, qui s'apprêtent donc à embarquer. Alors, il y en a un qui a une petite malle à la main. Sur le quai, il y a les ballots, il y a les cordages, il y a d'autres mâts avec d'autres bateaux qui sont dessinés derrière. Et puis il y a les mouettes, quoi. Il y a le ciel. Alors c'est assez drôle parce que en fait, il y a trois plans en fait sur à l'intérieur de l'image. Donc il y a le quai en lui-même qui est au premier plan, il y a le bateau qui est au milieu, et puis il y a le ciel. Il y a le ciel derrière. Il y a presque une impression de relief dans cette image, Timothée Montaigne.
Alors c'est vrai que bon, il y a le dessin, c'est une chose, mais je pense que la plus-value aussi est amenée par la coloriste, donc Clara, qui est qui a vraiment travaillé des ambiances très très réalistes et tout, et qui amène une vraiment cette ambiance de port au petit matin et tout, donc
avec la majesté du bateau, hein, qui est vraiment impressionnant. Alors c'est important la couleur, en particulier dans les récits maritimes. Vous connaissez un tout petit peu les récits maritimes, Xavier Derizon, pour employer une litote, hein, puisque vous avez embarqué avec le dessinateur Mathieu Loffray dans l'aventure Long John Silver, hein, 4 albums pour une série hommage à Stevenson et à l'île au trésor. Et il paraît que dans les coursives de Long John Silver, il y avait un petit moussaillon comme ça qui travaillait avec Mathieu Loffray sur les couleurs, c'est vrai.
Ah, si c'était moi.
Voilà, il s'appelait Timothée Montaigne, absolument. Donc, vous voyez, vous connaissez un tout petit peu l'univers maritime, quand même, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, ça, c'est vraiment une vieille, vieille histoire. Alors, il y a eu des... En fait, j'ai eu la chance. J'ai été l'assistant des couleurs de Mathieu. Mais en fait, bon, c'est un titre un peu... On a l'impression que j'ai mis de la couleur. Pas du tout. En fait, je mettais ce qu'on... Il faisait des couleurs traditionnelles à l'époque. Donc, c'est ce qu'on appelle des bleus. Vous voyez, c'est des... En gros, il mettait ses couleurs sur une feuille d'aquarelle. Bon, bref. Et en fait, moi, je mettais ce qu'on appelle du drawing gum. Donc, c'est un latex qu'on va mettre dans les bulles et autour des cases pour protéger le dessin, entre guillemets. Et puis, lui, il va faire ses... C'est un film de masquage, en fait.
Vous voyez. D'accord. Donc, c'est purement technique.
Mais je suis resté un mois avec ce mec-là. Oui. Et donc, il y avait à l'époque, il y avait Alex Alice, il y avait Robin Recht aussi. On était à trois dans l'atelier de Mathieu. Et je pense que je suis sorti de là en... Je me sentais apte à attaquer la bande dessinée. C'est des gens qui m'ont donné un point de départ, quoi. Et ça a été une expérience fondatrice, quoi, vraiment.
Alors, Xavier Dorizon, est-ce que Timothée Montaigne s'inscrit dans le même sillon, ou plutôt dans le même sillage que Mathieu Loffray ?
En fait, c'est intéressant qu'il ait parlé de Mathieu, parce que c'est vrai que soit Mathieu Loffray, Alex Alice ou Denis Bajram, c'est des gens avec qui nous on a fait notre métier, où on a appris. Vous savez, il y a des écoles, donc nous on s'est fait notre école, en général d'ailleurs dans les locaux qui étaient ceux de Mathieu Loffray. Donc bref, c'est une vie ensemble, c'est une vie d'artistes qui se retrouvent, qui ont leurs différences et leurs points communs. Donc il y a des points communs, je pense. Je sais que Tim a regardé le travail de Mathieu. Après, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, et ça tombe bien que ce soit pas la même chose, parce que c'est pas le même type de récit. Long John Silver, bon, est un récit mythologique, un récit légendaire, en fait. La piraterie dont on parlait dans Long John Silver n'existe pas, si ce n'est dans nos imaginaires. Là, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est pas un récit de pirate, et c'est un vrai récit de mer, c'est un vrai récit historique. Et moi, quand j'ai pensé à cette histoire, je m'étais donné une double contrainte graphique, et ça va répondre à votre question, je pense, qui était une contrainte paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, je voulais quelque chose qui soit réaliste, où on se dit « j'y crois, c'est vrai, je ne suis pas dans la légende ». Et en même temps, je voulais que ça ait du souffle, que ça ait de l'épique. Et Timothée Montaigne, a ce talent extraordinaire de savoir mélanger, on va dire, cette huile et ce vinaigre. À la fois le souffle, et le réaliste, qui normalement ne va pas ensemble. Et c'est là où je pense qu'il a une spécificité. Bien sûr, il y a des éléments d'ancrage, peut-être, ou des choses qui ressemblent, ou qu'il a appris de Mathieu, comme moi j'ai appris d'autres. Mais là-dessus, il est unique.
MDN sur RFI avec Xavier Dorizon et Timothée Montaigne, respectivement scénariste et dessinateur de ce superbe album de bande dessinée, le premier tome de ce récit maritime intitulé 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta qui vient de sortir aux éditions Glénat. Et avant même d'ouvrir l'album, Timothée Montaigne, on a déjà en main un bel objet, hein, puisque la facture du livre est assez luxueuse. Il y a un marque-page d'ailleurs, une couverture incrustée, dorée. Il y a un petit côté collection Hetzel, hein, vous savez, la fameuse collection de Jules Verne à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Bon, c'est extraordinaire cette couverture. Comment vous l'avez imaginé ? C'est une chance incroyable de pouvoir faire ce genre
exactement,
de...
Exactement, ouais. Bah, alors ça, c'est vrai que c'est une chance. Hein. Glénat nous a vraiment filé les clés pour faire ce qu'on voulait. Ouais. Alors, et vous l'avez dit, en fait, c'était vraiment mon ambition. Ça veut dire que On voulait un grand récit de marine et tout. Et ce qu'il fallait, c'était... Enfin, je voulais que l'objet soit aussi une invitation à l'aventure, quoi. Enfin, je sais que c'est important pour moi. Alors, c'était un pari de faire ça. Et exactement, je me suis basé sur les vieilles éditions Hetzel, là. Et donc, la complexité, c'était de trouver une fabrication, en fait, moderne. Parce que, bien évidemment, à l'époque, ils faisaient ça avec de la percaline. C'est une espèce de toile très fine, vous savez. Et moi, ce que j'aimais bien sur ces trucs de Jules Verne, c'était les dorures étaient lisses, vous voyez. Alors que maintenant, on fait des espèces de trucs comme ça où on va mettre une toile et puis on va mettre des dorures à chaud comme ça. Mais on voit la toile en dessous et ça ne me plaisait pas. Donc, il a fallu trouver un process de fab vraiment très compliqué. Donc, il y a des jeux de texture et tout français. On s'est fait mal là-dessus, hein, vraiment.
Donc, il y a le bateau. Il y a le bateau, évidemment, qui est au centre, hein, de la page. Il y a deux personnages qu'on va évoquer dans un instant. Il y a les animaux aussi, il y a les serpents, il y a les mouettes, il y a des crocodiles autour du titre. Et puis il y a tout à fait en haut un logotype avec un V majuscule, et sur le côté gauche de l'angle formé par le V il y a un petit O, et sur le côté droit un petit C. Alors c'est le logotype de la VOC. Alors c'est quoi la VOC, Xavier Dorizon?
Alors, je parle malheureusement pas flamand, donc je vais prononcer très mal, mais Vox, ça veut dire quelque chose du genre, et je pense que ceux qui parlent flamand vont s'écorcher les oreilles, Vereinigte Ostindische Compagnie, ça veut dire en gros compagnie hollandaise des Indes orientales. La Vox, c'est probablement la plus grande compagnie maritime de l'histoire. Si on était aujourd'hui, ce serait une compilation en termes de puissance de Google, Facebook, Apple et Amazon. Il faut imaginer qu'au XVIIe siècle, cette compagnie, elle frappe sa monnaie, elle a sa propre armée, et en fait, c'est elle qui contrôle les provinces unies, qui sont donc ce qu'on appelle nous aujourd'hui communément la Hollande ou les Pays-Bas. Et voilà, c'est la compagnie la plus...
C'est une sorte d'État dans l'État, quoi.
C'est l'État dans l'État. C'est un peu le pendant de ce qui sera la compagnie britannique des Indes orientales. Mais encore plus riche, encore plus puissante, et je suis obligé d'ajouter encore plus cruelle.
Alors, elle est tellement puissante, effectivement, cette compagnie, que sur le Jakarta, le vrai patron, c'est pas le capitaine, c'est celui qui représente la compagnie, qui s'appelle donc, vous avez employé le mot tout à l'heure, le subrécargue. Donc, en fait, il y a Dieu au sommet de la puissance, évidemment. Il y a le capitaine et le subrécargue est entre les deux, quoi.
Eh bien, en fait, absolument, c'est la manifestation que, dans ce monde-là, l'argent prévaut sur la compétence.
Oui, parce que c'est pas un marin, le subrécargue.
Pas du tout. Donc, l'argent prévaut sur la compétence. Et c'est intéressant parce que ça en dit long sur une société. Ça n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'institutions, parfois le cinéma, parfois l'hôpital, l'argent prévaut sur la compétence.
Jamais la bande dessinée.
Non, honnêtement, ce serait un vaste sujet, mais je crois que la bande dessinée reste un secteur culturel, de ce point de vue-là, vraiment privilégié. Tout à l'heure, je dirais qu'un mot là-dessus, mais Timothée a dit que Glénat nous a donné les clés. Et on est encore dans ce monde-là, où des éditeurs qui font bien leur métier ont compris que l'intérêt de tout le monde, y compris le leur, mais le nôtre aussi, était de faire confiance aux auteurs, de prendre leur œuvre et ensuite de tout faire pour la vendre. Non, non, pas la bande dessinée, mais bien, voilà, tiens, l'hôpital, par exemple, dans l'hôpital, ouais. C'est pas les médecins qui décident, hein.
Bon, ouais. C'est pas les infirmiers qui décident. Sur les directeurs d'hôpitaux, effectivement. Et, oui, bon. Et donc là, c'est le subrécargue qui décide, bref, et là, c'est avec justement toujours la notion d'argent en tête, parce que, et pour lui, et singulièrement dans ce voyage-là, la devise du subrécargue, c'est un petit peu le temps, c'est de l'argent, quoi.
Le temps, c'est de l'argent, l'argent prévaut surtout. Par exemple, là où les navires britanniques, quand ils avaient une course, ou les navires espagnols avaient une course qui ressemblait à celle du Jakarta, ils s'arrêtaient, par exemple, une ou deux fois sur les côtes africaines. Tout simplement pour avoir de la viande fraîche, des produits frais, etc. Les navires hollandais ne le faisaient pas. Pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps. Les navires britanniques laissaient, par exemple, les marins avoir leur petit coffre pour faire leur petit commerce. Pas les hollandais, etc., etc. Donc, l'argent partout. Le crime est moins grave à bord que le vol d'un bien de la compagnie.
Voilà, donc la puissance du subrécargue qui s'appelle Francisco Pelsert, hein, sur ce navire. Le capitaine, lui, s'appelle Ariane Jacob, et il peut y avoir du tirage donc entre le subrécargue et le capitaine. En plus, on comprend un peu au début qu'il y a un contentieux entre eux avant même le départ. Alors le capitaine, il a en plus un vrai souci avec l'alcool, et on peut pas dire que la finesse et la culture soient ses qualités premières. En plus, il a une sacrée gueule. Oui. Thibaut et Montaigne. Est-ce qu'il ressemble au vrai capitaine du Jakarta? Est-ce que vous avez retrouvé, je ne sais pas, des gravures d'époque ou des portraits qui vous ont permis de l'imaginer, ou il est vraiment sorti de votre tête,
ouais,
à vous?
C'est pour le coup celui-ci. Bon, en plus, c'est assez rigolo parce que sur les persos, souvent, on se met d'accord sur un... On va essayer de comprendre un caractère. Le caractère, voilà, il y a un perso, on comprend son caractère. Et on va trouver des acteurs comme ça pour essayer d'avoir une vague référence, voilà, un marqueur, quoi. Et c'est vrai que pour Jacob, pour le coup, il est assez... il est sorti un peu comme ça, quoi. J'aime bien ce genre de personnage un peu bourru, violent. Voilà, c'est plutôt des persos qui sortent tout seuls chez moi.
Et qui doivent porter sur leur visage leur caractère, leur trait psychologique.
Alors ça, c'est vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. On en discutait encore avec Xavier il n'y a pas longtemps. Et la bande dessinée, c'est assez particulier comme média. La bande dessinée franco-belge est très axée sur l'intrigue. Et on ne prend pas tellement de temps de faire le background des personnages, ouais, de bien les présenter et tout. Et je trouve, moi, que dans la vie, il y a des mecs qui portent leur vie sur leur visage, les traits, tout ça. Et j'essaie avec l'attitude, la posture de mes personnages, leur traits physiques, quoi, de visage et tout, leur regard, j'essaie déjà d'en dire long sur leur nature, quoi. Et c'est vraiment un truc intéressant à bosser, et je m'éclate à faire ça.
Voilà. Et en plus, comme sur ce bateau, il y a, pour reprendre l'expression utilisée dans l'album, la fine fleur de la racaille, il n'y a pas que des enfants de cœur, il y a pas mal de marins qui sortent, évidemment, c'est comme ça, souvent à l'époque, des prisons, et ça donne un monde avec vraiment des visages extrêmement expressif, pas toujours très avenant, un monde assez bestial, et on sent effectivement à travers votre dessin et à travers évidemment le scénario et les propos, la menace constante de mutinerie. Alors, il y a des, pas tout raconter, mais il y a des manipulations, il y a du poison, il y a les maladies évidemment, le fameux scorbut, il y a la faim qui se fait sentir, il y a une discipline qui est très stricte avec des punitions qui se veulent exemplaires. Et puis alors, pas négligeable l'or dans un bateau comme celui-ci, Xavier Dorizon.
Non, d'abord, le Jakarta emportait effectivement un des plus grands trésors qui soit, parce que son but était de corrompre un empereur à Java, donc on n'allait pas le corrompre avec de florins. Il y a une quantité d'or absolument, alors d'or, de diamants, il y a un camé d'agate absolument extraordinaire à bord, enfin, il y a une fortune colossale à bord. Et le problème, c'est qu'il y a juste à côté un équipage essentiellement composé de criminels. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ils peuvent littéralement respirer l'odeur de l'or. Sauf qu'eux sont dans une misère totale, soumis effectivement à un niveau de discipline et de violence atroce. Une mauvaise blague, un regard jeté, c'était le fouet, voire pire, ce qu'on appelait la garcette, qui était un fouet avec des crochets. Et en fait, c'est cette promiscuité entre l'or et une population désespérée qui va constituer une sorte de baril de poudre, et arrivera à un moment l'allumette, l'étincelle, qui va se retrouver dans un personnage qui s'appelle Géronimus Cornelius.
Voilà, Géronimus Cornelius, qui est l'adjoint du Supercargue. Alors, on sent tout de suite qu'il va être un moteur important du récit. Alors, sans trop révéler de détails, quelques petits mots du caractère psychologique du personnage Xavier Dorizon.
C'est l'homme... Géronimus Cornelius, c'est l'homme le plus brillant du bord. C'est un apothicaire, ce qui était à l'époque une fonction et un métier extrêmement valorisé.
Donc il a une science.
Il a une science, c'est un homme extrêmement cultivé. C'est l'homme de loin le plus cultivé du bord. Et on pourrait dire donner deux caractéristiques sur lui. Le premier, c'est qu'il est libertaire, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui croient à l'époque que Dieu nous a créés pour qu'on puisse assouvir tous nos désirs, et qu'assouvir nos désirs, c'est assouvir le désir de Dieu. Tous nos désirs, littéralement tous. Et le deuxième point qui le concerne, un psychiatre moderne dirait que c'est un psychopathe.
Voilà, et puis il y a deux autres personnages principaux. Il y a un gabier qui s'appelle Hayes, avec un regard bleu particulièrement pénétrant. Et puis une femme, Lucretia Hans, qui embarque sur le Jakarta pour rejoindre son mari alors qu'elle vient de perdre un enfant. Elle n'a donc pas grand-chose à perdre. Hein. C'est un peu son état d'esprit quand elle embarque. Ce sont ces deux personnages-là dont on parlait tout à l'heure dans la scène du bateau. Ces deux personnages-là qu'on voyait donc de dos qui s'apprêtaient à embarquer à l'intérieur du Jakarta. Il a vraiment existé, ce personnage de Lucrétia Hans?
Tous ont existé.
Vous n'avez rien inventé.
On n'a inventé aucun personnage.
Y compris le lémurien, parce qu'elle voyage avec un lémurien, Lucrétia Hans, lémurien, qui s'appelle Hugger.
Alors, le lémurien, il est possible que...
Bon, petit détail.
Voilà. Mais Lucrétia Hans a existé. Une bonne partie des drames dont on parle, la concernant dans la... ont existé. Lucrétia Hans, c'est une aristocrate d'Amsterdam. Elle vient de perdre, en fait, le dernier de ses enfants, ce qui malheureusement était assez coutumier à l'époque. Et son mari, qui exerce le charmant métier de négociant d'esclaves, lui demande de revenir à Java, en fait, tout simplement, parce qu'il faut qu'il ait des héritiers, quoi. Et elle est obligée de lui obéir. Elle ne connaît rien à la navigation. Et donc, elle va, comme nous, en fait, découvrir ce qu'est une aventure maritime à bord d'un navire de cette époque. Et le point le plus important, c'est que Gieronimus Cornelius va tomber amoureux d'elle, littéralement.
Bon, on va pas... N'avançons pas trop dans notre récit. Non, faut regarder un petit peu sous la pédale pour le lecteur. En tout cas, donc, Lucrétia, on le disait, voyage avec son lémurien, avec sa femme de chambre aussi. On va la retrouver en pleine séance d'habillage à la page 30 de l'album.
Je vous passe laquelle, madame? Choisissez bien, hein. Premier dîner, première impression, faut pas se louper. Moi, je dis qu'elles en jettent toutes les deux. La bleue, elle vous pose là. Ce velours, ça impose le respect. La rouge, bah, faut admettre qu'elle est moustille sacrément. Je prendrai la rouge, moi. Ça va, madame?
Vous bilez pas, madame. C'est la mère qui rentre.
Voilà, la mère qui rentre, donc elle a quelques petits problèmes gastriques, on l'a bien compris. Et la mère qui rentre, c'est non seulement le mal de mer, Timothée Montaigne, mais aussi cette scène de gros temps, hein, comme on dit, qui se trouve donc à la fois sur le bas de la page 30 et sur la page 31. Comment graphiquement on fait ressentir la violence d'un coup de tabac, comme disent les marins?
Alors ça, c'est assez marrant, mais je peux vous parler de trucs un peu techniques, parce que c'est vrai que ça a été souvent un problème chez moi de représenter les éléments abstraits, quoi. J'ai toujours eu du mal à représenter la brume, tout ça, parce que j'étais très attaché au dessin. Et en fait, sur cet album particulièrement, j'ai développé une méthode, en fait, une méthode d'ancrage qui est beaucoup plus spontanée. Donc on trouve souvent d'une proximité avec Mathieu, justement, avec Mathieu Loffray. Et c'est vrai que lui, il est expert et j'ai beaucoup regardé son travail pour ça. C'est-à-dire qu'on essaie justement de favoriser le rythme, en fait, le mouvement. Donc on va essayer de comprendre, je sais pas, les mouvements de la mer et finalement de pas les dessiner précisément. Vous savez, je vais pas soigner le dessin de l'écume, mais je vais plutôt donner du mouvement au coup de pinceau.
Ce qui passe par le poignet, en quelque sorte,
peut-être même le bras.
Peut-être même le bras. Ah oui, d'accord. Donc vous décidez...
J'exagère, mais c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment une autre façon de tenir mon outil, clairement. Et ça a été vraiment, si vous voulez, quand on s'attaque à un boulot aussi gros, parce qu'il y a 125-130 pages, on doit trouver des recettes, quoi. Des recettes pour pas se blesser en chemin. Vous savez, c'est une journée de dessin, c'est assez intense. Hein. Et quand on finit, j'ai souvent eu physiquement mal, quoi. Vous voyez, mal aux mains ou quoi, parce qu'on crispe un peu trop sur son outil et tout. Et là, il fallait vraiment trouver des recettes. Et surtout, j'étais pas dans ma zone de confort, quoi. Je devais me concentrer à beaucoup d'éléments, l'eau et tout ça, ces tempêtes et tout ça. Mais il fallait trouver des réponses.
Alors, comment on fait?
Eh ben, on prend un mois et on cherche.
Ah d'accord, c'est-à-dire qu'avant de dessiner une telle scène-là, il y a vraiment un long moment de brainstorming.
Alors, pas cette scène-là, mais un mois avant d'attaquer le bouquin, j'ai dû trouver une recette, ouais, clairement. Ouais. Donc je me suis entraîné à dessiner l'océan, les bateaux. Et vraiment, c'est une approche de l'ancrage à déterminer avant d'attaquer un bouquin comme ça, clairement.
Ouais. chœur des marins dans l'opéra de Wagner, le vaisseau fantôme interprété ici par le chœur de l'opéra de Vienne. VMDN sur RFI, Xavier Dorizon et Timothée Montaigne qui publient 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta aux éditions Glénat. Alors, on le sait, puisque vous avez divulgaché, comme vous l'avez dit, Xavier Dorizon, dès le début, il y a un naufrage, c'est même marqué sur la couverture, vous voyez, donc là on a le droit. Hein. Et forcément, notre réalisateur Pierre Plantier, qui est de l'autre côté de la vitre, n'a pas hésité à la... Elle n'a pas résisté à la tentation de mettre en onde la scène du naufrage en question. Elle commence à la page 109 de l'album. Et c'est Ace, ce fameux gabier de première dunette, qui donne l'alerte depuis la vigie.
Écume redevant.
Non, pas d'écume. Des reflets de lune, oui. On est à 3000 nautiques des côtes. Ce petit salaud veut nous renvoyer vers la voque, ouais. Ou alors, il voit plus bien. Je vais lui mettre les yeux en face des trous. Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu ?
On est échoué ! On a pris des récifs !
Jacob ! Misérable ! Qu'avez-vous fait ? Nous devrions être en pleine mer, crétin ! Où sommes-nous maintenant ? Où ? Je vais tout consigner, et c'est vous qui rendrez compte à la voque !
Monsieur le subrécargue, la coque tient pour l'instant, mais on a une voie d'eau à la proue. Le navire est empalé sur les récifs, faut qu'on arrive à le dégager. Pour ça, faut l'alléger et réduire la voilure tout de suite.
Il faut jeter les canons à la mer, monsieur ! Et déchirer les voiles ! Toutes les voiles !
Il a raison, on va balancer les canons, et tout ce qu'on peut. Peters, t'envoies des gars à la proue pour calfater ce qu'ils peuvent, et t'en prends d'autres pour remonter tous les barils d'eau douce. Los, tu me fais descendre à leur paillasse tous ceux qui n'ont rien à foutre sur le pont. Faut éviter la panique. Ace, tu t'occupes des voiles.
Et c'est tout ?
Non, priez. Vous pouvez prier pour qu'on soit à marée basse et que la marée haute nous dégage. Sinon, on aura fait tout ça pour rien. Et là, que Dieu nous garde.
Ouais, on voit les canons qui sont effectivement jetés dans l'eau pour tenter de sauver le navire. Alors là, pour le coup, vous parliez de cinéma tout à l'heure, Timothée Montaigne. Là, c'est une vraie scène de film catastrophe à grand spectacle. Là, le dessinateur que vous êtes... C'est un metteur en scène de cinéma.
Ben, c'est vraiment ça. Hein. On essaye de... Enfin, moi, je sais que je n'ai pas de distance avec ma planche. Hein. J'essaie vraiment de vivre le truc, quoi. Alors, la description de Xavier est toujours très précise. Encore une fois, on sent vraiment ses intentions et sa volonté. La complexité là-dedans, c'est de faire... Ben, là, en fait, c'est une double page. Donc, vous voyez, il y a différents... voilà, on organise un petit peu les cases pour rendre la lecture évidente et tout. Et puis après, ben oui...
Oui, mais vous faites exploser ouais. Les pages presque en même temps que le bateau, d'une certaine façon, puisqu'il y a des cadrages très différents, il y a beaucoup de plongées et de contre-plongées, il y a des gros plans sur les visages, il y a des gros plans sur les regards aussi, qui sont très expressifs et qui collent évidemment avec les mots de Xavier Dorizon qu'on a entendu il y a un instant. D'ailleurs, souvent, d'une façon plus générale dans l'album, les scènes d'action sont traitées avec des points de vue différents. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, vous changez de personnage pour montrer... C'est pour montrer la dimension collective ou c'est tout simplement pour donner du rythme au récit ?
Je pense que c'est plus... Enfin, souvent, ça va être plutôt axé sur le rythme, je pense. Hein. Vraiment, en fait, en bande dessinée, on essaie vraiment de privilégier la fluidité. Donc, il n'y a jamais... On ne doit pas perdre le lecteur, quoi. Donc il faut vraiment privilégier ça. Et ensuite, c'est la force d'évocation du cadre, quoi. Donc le choix de la plongée, le choix de la contre-plongée est toujours justifié, quoi. Voilà.
Alors, et puis il y a aussi, donc, moi, c'est ce que j'ai appelé la double page du craquement. C'est-à-dire ce craquement qu'on a entendu là, hein, dans l'extrait que Pierre a mis en onde pour nous. Alors, il y a évidemment l'onomatopée. Alors, je ne sais pas comment vous la prononcez. Crom, je ne sais pas, voilà. Bon, ça ressemble à. Bon, il y a je ne sais pas exactement combien de R il y a à l'intérieur de l'onomatopée. Donc, elle prend vraiment toute la largeur de l'album, hein, sur les deux pages. Et puis, il y a des petites cases, souvent muettes, d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule avec une petite bulle. Ces petites cases-là, comment vous y avez réfléchi dans votre scénario, Xavier Dorizon ? Parce que là, là, pour le coup, on est effectivement sur des points de vue très différents et sur des objets aussi qui parlent plus que les personnages.
En fait, quand vous voulez créer une ambiance en bande dessinée, sachant que vous n'aurez pas un son général,
vous êtes, soit vous faites un grand plan général, mais c'est pas finalement ce qui va le plus vous plonger dans l'ambiance. Ce qui vous met dans une ambiance, c'est des détails. Et donc, on a cette technique que moi j'ai appris en regardant les premières pages souvent des Torgal de Jean Van Damme, mais c'est aussi très utilisé en manga. Vous allez choisir dans un décor ce qui illustre le mieux l'univers de ce décor. Vous voyez, ici on prendrait un gros plan sur la bouteille d'eau posée sur la table, le micro, peut-être vos notes, voilà, et on aurait l'ambiance d'un studio sans avoir fait un plan général d'un studio. Donc voilà par exemple comment on pense une scène de naufrage. Donc, quels sont les éléments de détail qui représentent le mieux le naufrage?
Alors, il y a la violence de la météo, mais il y a aussi la violence tout court, hein, qui est présente d'un bout à l'autre de votre récit. Et quelque chose me dit que ce sera un petit peu la même chose dans le tome 2, d'ailleurs. Et il faut dire que vous y allez assez fort dans l'avertissement, quand même, Xavier Dorizon, puisque il y a au tout début du livre un texte que vous signez et qui s'intitule « L'extinction de l'âme ». Et vous prévenez le lecteur, hein, que l'histoire va être sanglante, qu'elle va révéler les pires instincts humains. Vous allez loin parce que vous évoquez la Shoah, le Rwanda, le génocide arménien, quelques autres tragédies mondiales d'une ampleur incroyable. C'est un vrai avertissement ou c'est un procédé narratif aussi, histoire de tenir un petit peu plus le lecteur en haleine?
Non, c'est moi je crois vraiment que ce qui s'est passé d'abord à bord du bateau, puis sur les îles des Abrolhos où nos personnages vont aller, relève en fait des mêmes mécanismes psychologiques que ceux des drames que vous avez cités. Simplement, évidemment,
l'échelle
n'est pas la même, mais le mécanisme, il est le même, par contre. Et ce mécanisme, il a été parfaitement décrit donc, par ce professeur de sociologie, de psychologie, qui est Philippe Zimbardo.
Et professeur qui explique, à Stanford.
Et absolument, et qui explique assez bien comment, en mélangeant une absence d'autorité morale, une absence de règles, l'éloignement d'une autorité et une forme d'anonymat, on peut très rapidement transformer un groupe de gens soit en monstres, soit, pour ceux qui en seront victimes, en victimes soumises. Et le plus étonnant n'est parfois pas tant la dérive sadique de gens qui, le jour d'avant, étaient totalement normaux, mais le comportement totalement soumis des masses. Et c'est ce qui se passera. C'est ce qui se passe déjà à bord du navire. On voit bien, il y a 40 hommes qui en tiennent 300 à peu près. C'est dingue quand on y réfléchit. Et ce même rapport de 40 à 300 va perdurer sur l'île de façon encore plus caricaturale, encore plus exagérée. Et donc cette situation, cette citation n'était pas là que pour faire joli, en fait.
Ah oui, ça j'ai bien compris. D'autant qu'il y en a une autre dans le prologue, hein, qu'on pourrait appeler cela ainsi, avec cette voix off qui donne le ton et qui renforce ce que vous venez de nous expliquer. Avec donc cette voix off, on ne sait pas trop à qui elle appartient d'ailleurs au début. Et elle cite le roi Agamemnon, hein, donc la guerre de Troie, etc. Mmh. Vous n'en laisserez pas un en vie, vous arracherez jusqu'au bébé des ventres de leur mère. Tous devront simplement être rayés de l'existence. Alors c'est d'une violence incroyable. Et en plus, l'image qui, le dessin qui accompagne ces mots est une image très très belle, quoi, tout simplement, quoi. C'est une mer bleue. On voit tout de suite qu'on est sur une île. On a presque une ambiance de vacances. Alors, il y a ce personnage dont la silhouette se détache de dos à la sortie d'une grotte, personnage féminin, qu'on va retrouver évidemment un petit peu plus loin dans les pages de l'album. Et quand on tourne la page, à nouveau, un effet waouh. C'est extraordinaire parce que là, il y a un charnier, quoi. On peut pas appeler ça autrement. Timothée Montaigne. Bon. Là, vous jouez sur le contraste à fond, quoi, au niveau des couleurs, au niveau aussi de ce que vous dessinez. J'avais une question justement sur la représentation du sang.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes fixé une limite ou pas du tout? C'est important quand même par rapport au lectorat.
Ouais, bien sûr. Je sais pas. Je pense qu'il y a des. Je montre pas grand-chose, hein. Je suis toujours dans la suggestion, dans l'ambiance, puis c'est souvent comme ça. Parfois, il faut montrer, en fait, tout dépend encore une fois des intentions. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est toujours ça, ça veut dire que faire du gore pour du gore, on s'en fout un peu, c'est pas notre sujet sur ce truc-là, quoi. Donc c'est vrai que je suis... mon axe est toujours essayer de servir au mieux l'intention, quoi. Là, il faut... Je repensais à ce film-là. C'était Apocalypto, c'était un film de Mel Gibson, vous voyez. À un moment donné, le mec tombe dans un espèce de charnier, là. Voilà. Donc, je repensais à cette ambiance-là, ce que ça dégageait comme truc, quoi. C'est vrai qu'on ne va pas s'attacher aux détails, mais c'est une ambiance, c'est quelque chose de... C'est vraiment une ambiance particulière, quoi. Et je voulais essayer de traduire ça. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas tellement de rapport au gore, au sang, enfin... Sauf parfois.
Bon, sauf parfois, voilà. Alors, il se trouve qu'à la toute dernière page de l'album est annoncé le deuxième volet du diptyque. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien direct avec le sang, toujours est-il que le deuxième volet, son titre, ça va être L'île rouge, Xavier d'Horizon.
Vous en avez parlé il y a deux minutes, on ouvre le diptyque avec cette belle plage, ce beau soleil, pour un peu, on aurait envie d'y voir les bâtiments du Club Med. Et en fait... Le sang au soleil est quelque chose de particulièrement atroce. Et cette île, donc, qui s'appelle les îles Ambrolos, au large de l'Australie, vont être le lieu de beaucoup de violence, beaucoup de sang. Et pour rejoindre ce que dit Timothy, le pire ne va pas tant être le sang et la violence que la violence psychologique que les personnages vont devoir subir ou se faire subir à eux-mêmes. Et donc, c'est ça qui, je dirais, clôturera le côté, à mon avis, extraordinaire et effroyable de cette histoire.
Bon, donc, le deuxième tome du diptyque, il est prévu pour quand, Xavier d'Horizon ?
Pour dans 130 pages.
Oui, dans 130 pages, vous êtes dessus en ce moment ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je tourne pas mal, ouais. Tourne pas mal en dédicace, donc ça avance pas.
Forcément,
super.
Ça ralentit un petit peu le rythme, mais vous avez un cap, pour le coup, pour rester dans la métaphore maritime ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Le cap, c'est, je sais pas, novembre 2024, ouais, quelque chose qu'on va dire ça.
Novembre 2024, ah oui, donc ouais, il va falloir quand même attendre.
Il y a
un petit peu de temps.
Ouais. Il y a quasiment trois albums à faire, en fait. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais, c'est vraiment de gros volumes pour du franco-belge, ouais. Un peu de patience, mais bon.
Voilà, un peu de patience, mais je suis sûr que ça en vaudra la chandelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. Le tome 1 de Xavier d'Horizon et Timothée Montaigne est paru, je le rappelle, aux éditions Glénat.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Autre type de voyage à présent dans VMDN, on va partir pour un voyage complètement différent, un voyage mystique. Marjorie Bertin s'est rendue au Théâtre du Granit dans le territoire de Belfort, on est tout à fait dans l'est de la France, pour assister à une première mondiale, celle de Sama, la lumière exilée, opus 259. Après 2 ans de travail, le compositeur Pierre Tillois signe un songe symphonique où se mêlent l'Orient et l'Occident pour y ramener la lumière. Reportage.
Le cœur bat très fort. Sur l'immense scène du théâtre, 62 musiciens, dont les 49 membres de l'Orchestre symphonique de Dijon, qui, debout, interprètent une partition fougueuse et déroutante derrière un imposant rideau de tulle. Devant, 2 silhouettes semblant vêtues de soutane noire. Le metteur en scène et récitant, Frédéric Fischbach, et le contre-ténor, Rémi Bressefeuillet.
Thank you.
Sur scène aussi, le soufisme. Le courant spirituel de l'islam s'incarne par les poèmes de Rumi, mystique du XIIIe siècle, et deux artistes iraniens, la derviche-tourneur Rana Garbani et le percussionniste Habib Meftar. Pierre Tillois propose la rencontre de l'Orient et de l'Occident dans ce songe symphonique, une partition mystique et pleine de puissance, dont l'inspiration est ancrée dans le réel. Pierre Tillois.
Cette recherche de puissance, c'est vraiment la puissance au sens premier du terme, c'est-à-dire l'élévation, c'est-à-dire que si on accepte d'être des animaux intelligents, il faut l'assumer. Et c'est pas en faisant ce qui se passe actuellement en Iran qu'on montre qu'on est puissant, on est minable. Et nous, dans notre silence, on est minable. Donc c'est une manière aussi de s'élever. Mes armes, ce sont la musique, une espèce de vision de la société. J'ai ces outils pour dire non, on ne peut pas rester insensible, on doit se battre et montrer que la puissance, c'est très beau, mais c'est très beau à condition de vivre ensemble.
Frédéric Fischbach récite des poèmes de Rumi, de Nostradamus et du fervent catholique Paul Claudel. Mystique, les textes abordent la séparation, la nuit noire, l'appel du divin aussi, comme dans ces vers d'exil de Claudel.
Viens-t'en, viens ma nuit, viens-t'en, ombre de l'ombre, viens, silence sacré et nuptial, soleil de mon âme, viens. Paix, viens, amitié, viens, nombre, viens avec moi, viens, mon Dieu, viens, ardent sommeil.
Mais ce spectacle total donne aussi énormément à voir, grâce à la présence de l'hypnotique Rana Gorgani. Née d'un père kurde et d'une mère iranienne, c'est l'une des rares derviches tourneurs femmes dans le monde. Pendant une heure, elle tourne sur elle-même à n'en plus finir, exécutant avec une virtuosité époustouflante cette danse sacrée qui perdure depuis plus de 800 ans.
Tout le long du spectacle, je prie. Voilà. Et souvent, on me demande, mais comment fais-tu pour ne pas avoir la tête qui tourne, pour rentrer dans ces états d'exaltation ou d'extase ou... Il y a en moi la présence du zikr. Dans la tradition soufie, les zikrs sont des chants répétitifs qui habitent complètement le corps et qui permettent d'une certaine manière l'élévation. Ça ne me quitte pas. Le zikr, cette prière soufie, est là et j'ai l'impression que je suis libre de l'exprimer à travers cette œuvre de Pierre Tillois.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN, le journal dans un instant sur RFI, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.